Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le début de l'année 2023, régulièrement, le Parisien raconte la guerre que se livrent à Marseille deux gangs rivaux, la DZ Mafia et le clan Yoda. Nous avions déjà évoqué ce conflit meurtrier dans Code Source en mai 2023 dans notre podcast sur le tueur à gages Matteo, 18 ans, recruté sur Internet, sur Snapchat, pour venir semer la mort à Marseille. Nous avons choisi aujourd'hui de prendre le temps de raconter ce qu'il s'est passé à Marseille l'année dernière, notamment après l'arrestation le 8 mars de Félix Bingui, considéré par les enquêteurs et la justice comme le chef du clan Yoda. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du Parisien, du service Police-Justice, Jean-Michel Descugis et Vincent Gautrenon. Les règlements de compte liés à la drogue à Marseille ont fait 49 morts en 2023 d'après la justice. Et sur ces 49 morts, 35 sont liés à la guerre entre deux gangs que l'on va raconter aujourd'hui. Vincent Gautrenon, parmi ces morts, il y a 4 victimes collatérales, des personnes qui, d'après les enquêteurs, n'avaient aucun lien avec le trafic de drogue. Parmi elles, une jeune femme de 24 ans, Sokaina, tuée le 10 septembre dernier, alors qu'elle était chez elle à Marseille, au 3e étage de son immeuble.
Sokaina, c'est un exemple flagrant de ces fusillades, de ces excès de violence qui ne touchent pas que les trafiquants. Sokaina, elle a 24 ans, elle est étudiante, elle est dans son appartement, sur son ordinateur, en train de travailler, quand, dans la rue, un homme tire à la Kalachnikov en direction de son immeuble, sans la viser évidemment, sauf que les balles traversent la cloison de son appartement, et cette jeune femme, qui n'a absolument rien à voir avec le trafic, est tuée par des balles perdues.
Au-delà de ce drame, des familles de personnes tuées dénoncent une banalisation de ces meurtres. Jean-Michel Descugis, pour Le Parisien, vous avez interviewé en mai 2023 deux femmes qui ont perdu pour l'une son neveu et pour l'autre sa nièce, Laetitia, 42 ans, et Attika, 43 ans. Qu'est-ce qu'elles vous disent ?
Elles dénoncent une violence gratuite. Elles se refusent à parler de règlement de compte. Pour elles, ce sont des assassinats. Parce que les victimes ont 14, 15, 16 ans, sont des petites mains du trafic et parfois des victimes collatérales. Et ces femmes, elles disent aussi une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on peut être tué n'importe où, n'importe quand. On ne peut plus dire que c'est concentré sur des quartiers ou sur une catégorie de personnes.
Et les mineurs qui sont sur les points de deal, qui sont pris pour cible, ce ne sont pas toujours des trafiquants chevronnés.
Ce sont des gamins qui ont 14, 15, 16 ans, qui parfois n'habitent même pas Marseille, qui sont venus de Paris, de Lyon, qui ont été recrutés par les réseaux sociaux et qui viennent parce que c'est des mineurs paumés, qui sont en rupture familiale. Et en fait, c'est l'enfer. Parfois, ils ne mangent même pas, ils sont privés de nourriture, séquestrés, torturés. C'est vraiment de l'esclavage moderne.
Pour bien comprendre, on a choisi de commencer notre podcast il y a plus de 10 ans, en 2012 à Marseille. Jean-Michel Descugis, présentez-nous Mehdi Abdelatif Laribi. Qui est-il à ce moment-là ?
En 2012, il a 21 ans. C'est un jeune d'origine algérienne. Son père était chauffeur routier. Il est né à Marseille. Il a grandi dans les quartiers de Bassins, qui est un quartier populaire. À 12 ans, il va rentrer dans la délinquance. Il va commencer par des petits vols, des cambriolages, et puis il va gravir comme ça les échelons les uns après les autres. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux et qui est dans cette logique de la loi du plus fort.
En juillet 2012, Mehdi Laribi est interpellé. On le soupçonne d'avoir participé à un règlement de compte qui a fait 3 morts le 25 décembre 2011.
Les policiers découvrent au Pen Mirabeau, qui est une ville proche de Marseille, une Audi brûlée avec 3 personnes à l'intérieur, des jeunes de 19 et 20 ans. Et on va remonter assez rapidement aux frères Laribi, Mehdi et Mohamed Laribi, qui vont être interpellés en garde à vue. Mehdi Laribi va chiquer, comme on dit dans le jargon policier, c'est-à-dire qu'il va mentir. Il va raconter qu'il est fumeur de joint, qu'il est voleur, mais pas du tout trafiquant. D'ailleurs, il va condamner le trafic dans les cités, il va dire que c'est un fléau, etc. Il va aller très loin. Il va pas convaincre tout à fait les policiers ni les juges, mais malgré tout, il aura une peine beaucoup moins importante que son frère, puisqu'il ne prendra que 10 ans. Or, son frère prendra 25 ans. Il faut dire qu'un témoin sous X dira que c'est Mohamed Laribi, le tueur, et que lui, simplement, Mehdi Laribi, était chauffeur de la voiture ouvreuse qui est allée brûler ses gamins dans la voiture.
D'après les enquêteurs, depuis sa cellule, en prison, Mehdi Laribi organise et développe un trafic de drogue.
Il a 22 ans, 23 ans, quand il va tomber, il va continuer son business parce qu'il est en pleine progression, hein. Il tenait le marché de Bassins et il va vouloir le garder. Il bénéficie de complicité interne, les surveillants, il est au Beaumettre, beaucoup de corruption. Il continue à gérer son business, à acheter, vendre de la drogue grâce à ses lieutenants qui sont encore sur le terrain.
Vincent Gautronneau, le trafic de Laribi prospère.
L'incarcération de Mehdi Laribi ne freine en fait pas son ascension. À ce moment-là, il est notamment allié à d'autres trafiquants d'ampleur marseillais, dont certains ont été arrêtés depuis. Et son emprise gagne peu à peu une grande partie des quartiers nord. À un moment, on estimait qu'il avait environ 30% des points de deal de Marseille. Ça va depuis le fameux quartier de la Paternelle, mais c'est aussi sur la cité Caliste, sur les Castellas, sur les Micocouliers. À ce moment-là, malgré son incarcération, Mehdi Laribi est considéré par les enquêteurs comme étant potentiellement à la tête, mais avec des complicités d'autres équipes, de près de 30% des points de deal sur de nombreux quartiers nord de Marseille.
Des points de deal, il y en a des dizaines à Marseille et on estime que chaque point de deal rapporte entre 30 000 et 50 000 euros par jour. Pendant l'épidémie de Covid, un autre homme va monter en puissance à Marseille, un certain Félix Bingui, surnommé Le Chat. Jean-Michel Descugis, d'abord, qu'est-ce que l'on sait de lui et de son parcours ?
C'est un jeune qui est né à Alès et qui est venu rapidement ensuite à Marseille. Son père était forain sur les marchés et sa mère est centrafricaine. C'est un type, un beau gars, fort, qui en impose, flambeur. Rapidement, il va prendre la main sur le trafic de plusieurs cités. Il aime les belles voitures, il roule en Ferrari, il aime la vitesse. Il aime montrer qu'il a réussi. Et donc il va fêter, c'est une tradition dans les cités, pas qu'à Marseille, le million d'euros qu'il a gagné. Et il va faire un feu d'artifice dans la cité pour montrer sa puissance.
Vincent Gautronneau, qu'a fait Félix Bingui, alias Le Chat, pendant le Covid ?
À la base, Félix Bingui tient un point de deal qui s'appelle le point de deal de La Fontaine, dans le quartier de la Paternelle. Et en fait, pendant le Covid, il se retrouve avec une chance, c'est qu'il se retrouve à être l'un des seuls en possession d'une grande quantité de produits. Et donc, son point de deal devient un point de deal vraiment important à Marseille, d'autant que les gens qui conçoivent l'agglomération marseillaise décident de faire une bretelle d'autoroute qui va sortir juste devant son point de deal et qui permet d'accéder au centre de Marseille. Donc, son point de deal devient à ce moment-là presque le premier point de deal de Marseille, dans le sens où il est extrêmement facile pour les consommateurs du centre-ville, mais aussi pour les consommateurs de l'extérieur de Marseille, de venir s'approprier à la Paternelle. On prend l'autoroute, on sort, on re-rentre, et voilà, ça c'est réglé en 5 minutes, il y a un drive, on repart avec son morceau de cannabis.
Le groupe de Félix Benghi est surnommé le clan Yoda, le maître Jedi de la guerre des étoiles est tagué sur un point de deal de la cité de la Paternelle. En face, le groupe de Laribi est surnommé la DZ Mafia, DZ pour Zahir, le nom de l'Algérie en arabe algérien, parce que beaucoup de ses membres sont originaires d'Algérie, dont Laribi lui-même. En 2021, Vincent Gautrono, Laribi, le chef de la DZ Mafia, sort de prison. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il n'a pas apprécié que Félix Benghi, le chat, cherche à gagner du terrain.
La Paternelle, historiquement, c'est un quartier où il y a 3-4 points de deal qui sont répartis entre différents clans et ça se passe plutôt bien. Sauf que quand Mehdi Laribi sort de détention, il se rend compte que Félix Benghi a pris beaucoup de place, que son point de deal de La Fontaine, Yoda, est devenu extrêmement rentable, que Félix Benghi a une volonté d'expansion et forcément ça, ça passe pas. Et c'est là que les troubles vont jaillir entre les deux hommes.
Jean-Michel Descugis.
Immédiatement, Mehdi Laribi va récupérer le point de deal de Bassens. Et il va écarter quelqu'un qui a mis la main sur ce point de deal et qui va être arrêté un peu plus tard au Maroc. Et là, il lorne sur La Paternelle le site le plus lucratif qui est celui de La Fontaine et qui est tenu par Benghi.
Benghi, donc le chef du clan Yoda. En janvier 2023, le 24 janvier, en Espagne, à Empuria Brava, en Catalogne, un homme de 43 ans, considéré par la police comme membre du clan Yoda, est pris pour cible.
C'est un commando de la DZ Mafia qui part là-bas. Lui, il roule en Mercedes, Mohamed T, quand une 308 lui barre la route. À l'intérieur, il y a trois hommes. Un en descend et lui tire dessus à plusieurs reprises. Il va s'en sortir, il n'est que blessé. Il va prendre 5 balles dans le torse, une au bras. Il va aux urgences pour se faire extraire les balles. Et le commando va essayer aussi de venir le tuer carrément aux urgences. Et il parvient à prendre la fuite et à échapper à ses rivaux.
Jean-Michel Descugis, le mois suivant, en février, à des milliers de kilomètres de Marseille et de ses points de deal, Laribi et Félix Benghi se croisent dans une boîte de nuit de Phuket, en Thaïlande.
Cette nuit va être baptisée par les policiers la nuit du glaçon. Les deux chefs, les deux gangs rivaux se croisent et ça ne se passe pas bien. Certains disent que c'est un contentieux par rapport à une fille, d'autres simplement parce qu'il y a une tension énorme entre les deux gangs et que là, ça part et qu'il y a une provocation de la part de Félix Benghi, qui va lancer un glaçon sur Mehdi Laribi. La rumeur dit qu'il y aurait une bagarre, que c'est Benghi qui a pris le dessus sur son rival.
À partir de là, les meurtres se succèdent. Le 15 février, à La Paternelle, un jeune de 17 ans est lynché par une trentaine d'agresseurs. Il meurt de ses blessures. Réplique, le lendemain, un homme de 20 ans est tué par balle dans la cité des Mico-Couliers. Le 18 février, un homme de 28 ans meurt touché par une rafale de Kalachnikov dans le quartier de la Capelette. Le 24 février, un homme de 40 ans est tué à La Paternelle. Les meurtres se succèdent ensuite dans les mois qui suivent. Jean-Michel Descugis, les enquêteurs mettent beaucoup de moyens pour essayer de traquer les chefs des deux gangs, la DZ Mafia et le clan Yoda.
Les policiers vont adopter une stratégie qui se révélera payante. Ils vont se concentrer exclusivement sur ces deux gangs. On va faire appel à des groupes spécialisés comme la BRB qui s'occupe des cambriolages, des braquages, qui vont travailler sur les scènes de crime. Des groupes de PJ de Montpellier, Nîmes, etc. vont venir récupérer des dossiers de Marseille plus anciens pour essayer de les résoudre. Et les policiers marseillais vont essentiellement se concentrer sur ces deux gangs avec de la sécurité publique qui va pilonner les quartiers où il y a le deal. Et puis, dès mars 2023, deux ouvertures d'enquête, une qui concerne le gang Yoda et une autre qui concerne le gang des DZ Mafia à partir du trafic, l'association de malfaiteurs, avec des moyens très offensifs, sonorisation des parloirs en prison. Et pour commettre un règlement de compte, en général, il faut une voiture, un véhicule. Les policiers de la BRI, ils tournent pour repérer les voitures des malfaiteurs.
Vincent Gautrono, le 2 avril, deux fusillades éclatent à Marseille.
Effectivement, dans le 15e arrondissement, dans la cité de la Castellas, il y a deux séquences de tirs à environ 900 mètres l'une de l'autre. C'est des tirs à la Kalachnikov et au 9 mm. Et là, les policiers découvrent deux morts et trois blessés.
Moins d'une heure plus tard, nouvelle fusillade.
vers minuit 40, dans le deuxième arrondissement, dans le quartier de la Joliette, il y a trois jeunes de 14, 15 et 16 ans qui sont en train de dîner devant un snack, de prendre un sandwich, quand une Peugeot 308 s'arrête à leur hauteur. Là aussi, ils sont visés à la Kalachnikov et au 9 mm. Un adolescent décède sur place et un second jeune homme de 15 ans décédera quelques jours plus tard à l'hôpital.
Quelques heures plus tard, un jeune de 18 ans est arrêté à Gardanne par les policiers de la Brigade de Recherche et d'Intervention, la BRI de Marseille. Ce suspect parle aux enquêteurs en garde à vue. Vincent Gautronneau, le jeune tueur à gages prénommé Matteo, a un profil particulier. Il explique avoir touché au total 200 000 euros pour une série d'assassinats.
C'est un jeune qui a un enfant de la classe moyenne, qui a grandi à Gardanne, une petite ville à côté de Marseille. Il a aussi vécu un temps en région parisienne et il a commencé à traîner dans le milieu des stupes, à faire guetteur, petit vendeur. En fait, à un moment, il est incarcéré, Matteo, à Fresnes. Et là, il fait une rencontre qui va s'avérer déterminante, qui va changer sa vie. Un homme lui propose de venir travailler à Marseille comme tueur à gages pour le compte de la DZ Mafia. Matteo va donc retourner dans le sud de la France. Il a été arrêté pour les deux meurtres de la Joliette. Face aux enquêteurs, Matteo va assez vite s'impliquer de lui-même dans d'autres meurtres. Il reconnaît en fait qu'il était recruté sur Snapchat. On lui confiait une mission, on lui confiait une voiture, des armes, et il allait tirer sur des gens. Il reconnaît l'avoir fait au moins à 3 ou 4 reprises. À ce stade, on lui reproche au moins 5 homicides.
Et ce qu'il dit aussi aux enquêteurs, c'est qu'il devait prendre des vidéos suite à ces meurtres.
C'est des vidéos qui sont utilisées pour intimider l'ennemi, mais aussi pour confirmer qu'il a mené à bien sa mission. Il y a notamment une vidéo d'un crime qui est attribué à Matteo qui a tourné sur les réseaux sociaux. Le père de la victime a d'ailleurs affirmé avoir appris la mort de son fils comme ça. On y voit un jeune homme assis à la place passager d'un véhicule. Il est décédé, il a été tué par balle et son tueur incendie alors le véhicule où est ce jeune homme. Donc ce sont des vidéos qui sont faites aussi pour marquer les esprits de l'adversaire, montrer la cruauté du clan.
Je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais redescendre. Sur la vie de ma mère, tu vas te jurer, mon sang. Sur la vie de ma mère, tu vas péter un plomb.
Dans cette guerre, l'idée, c'est de terroriser le clan adverse. Et pour ça, eh bien, on va mitrailler, on va fusiller des jeunes de 14, 15, 16 ans qui sont au pied des immeubles. Parfois, c'est des victimes collatérales. Et c'est ça qui est très nouveau. Parce qu'avant, eh bien, les règlements de compte, hein, c'était entre chefs. Et eux-mêmes allaient régler leurs comptes. Et c'était même une question de devoir. Alors que là, on sous-traite des tueurs à gages pour aller tuer des types qui leur ressemblent, qui ont 15, 16 ans et qui sont des petites mains du trafic. Des victimes.
Vincent Gautronneau, toujours en 2023, le 3 mai, en Espagne, à Salou, une petite station balnéaire de Catalogne, deux hommes sont tués par balle.
Oui, le premier, c'est Scar. Scar, c'est le beau-frère de Félix Bingui. C'est l'homme qui était chargé de la logistique du clan Yoda. Ce jour-là, il était avec un ami, lui aussi présumé impliqué dans le trafic. Lorsque, à Salou, ils font face à trois hommes cagoulés qui sortent d'un véhicule Renault qui sont armés d'une Kalachnikov et vident les chargeurs sur la voiture.
Quelques semaines plus tard, le dimanche 21 mai, au petit matin, devant la boîte de nuit L'Oasis à Marseille, des coups de feu éclatent. Trois hommes sont tués. On ne fait pas la liste dans ce podcast de tous les règlements de compte, ils sont donc très réguliers. Au mois de novembre et décembre 2023, Jean-Michel Descugis, les enquêteurs procèdent à deux coups de filet.
C'est l'aboutissement des enquêtes qui avaient été ouvertes en mars contre le clan Yoda et contre le clan des Ailes Mafia. 22 interpellations dans le clan Yoda fin novembre, le 22 novembre, qui vont aboutir à 9 mises en examen pour association de malfaiteurs, trafic, etc. Qui est un coup dur pour Yoda. Et bien, il va avoir la réplique une semaine plus tard, le 2 décembre. Il y a 26 personnes liées au clan de la DZ qui vont être arrêtées et une vingtaine de mises en examen. Et ça va ralentir le processus de vendetta et de mort dans la ville.
Le 16 janvier, il y a un nouveau coup de filet. Les membres présumés du commando qui a tué le beau-frère de Félix Bingui en mai 2023 à Salou. Le 3 février, le Parisien raconte que la DZ Mafia a posté une annonce sur Internet, sur l'application Telegram, annonce destinée à recruter des petites mains pour l'un des points de deal.
Effectivement, c'est devenu une habitude à Marseille, ce type de recrutement. Les réseaux Telegram sont nombreux. Ils proposent des emplois de guetteurs, de choufs, comme ils disent, de vendeurs. S'ils en sont réduits, ces réseaux criminels, à faire ça, c'est que recruter est devenu compliqué à Marseille parce que dealer, c'est devenu un métier dangereux. Et donc, le recrutement se répand sur les réseaux sociaux et soit on augmente les prix, soit on va aussi chercher des mineurs isolés qui sont désormais nombreux à travailler pour les réseaux.
Le vendredi 8 mars, la police marocaine interpelle le chat Félix Bengui, le chef du clan Yoda, à Casablanca.
Effectivement, il est interpellé à Casablanca, où il était réfugié depuis plusieurs mois. Les enquêteurs français, notamment ceux de l'OFAST de Marseille, savaient très bien qu'il était là-bas. Mais ce sont des arrestations qui sont toujours difficiles. Il faut des accords avec les pays, en l'occurrence avec le Maroc. Là, il a noté qu'il y a eu un déplacement important début février de la police française au Maroc pour sensibiliser les autorités marocaines à la présence de Félix Bengui sur leur territoire, et ça a porté ses fruits.
Cette arrestation que vous révélez dans Le Parisien est saluée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il parle, je cite, d'un grand coup porté au narco-banditisme. Pour les enquêteurs, Jean-Michel Descugis, c'est une vraie victoire ?
Oui, c'est une victoire parce que les policiers se sont efforcés d'entretenir des liens avec les services de police à l'étranger. Frédéric Vaux, le patron de la police lui-même, s'était déplacé en novembre dernier. Des informations étaient transmises quotidiennement sur les lieux où pouvait se retrouver Bengui, dans ses lieux favoris. C'est la confirmation que la stratégie des policiers était la bonne.
Mehdi Laribi, lui, court toujours et les enquêteurs ont la certitude qu'il est à l'étranger. Concrètement, Jean-Michel Descugis, la DZ Mafia a gagné la guerre qu'il opposait au clan Yoda ?
Elle a gagné la guerre, je ne sais pas. En tout cas, elle a pris le dessus. Quand un clan perd son chef, c'est toujours un problème. Et DZ Mafia, elle, a toujours son chef qui est en place.
Jean-Michel Descugis, quelques jours avant l'interpellation de Félix Bengui, une commission d'enquête sénatoriale sur le trafic de drogue a entendu des magistrats de Marseille, c'était le 5 mars, et ces magistrats ont donné leur vision très sombre de la lutte contre le trafic de drogue dans la ville.
Ils parlent de Marseille en disant que c'est une narco-ville dans laquelle la violence est énorme. Ils disent surtout qu'ils sont en train de perdre la guerre contre la drogue.
On perd la guerre, disent ces magistrats. Il faut dire que face à eux, les trafiquants ont d'énormes moyens financiers.
Et c'est bien ça le problème. C'est qu'ils peuvent se payer de très bons avocats, corrompre éventuellement des policiers, des greffiers, des surveillants de prison. Ils peuvent se cacher à l'étranger, se payer une cavale, ils peuvent changer d'adresse tous les jours en allant soit dans des hôtels de luxe, parce qu'ils ont des gros moyens financiers.
Qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui ?
Ils demandent un plan Marshall, c'est-à-dire des moyens hors du commun. Ils demandent aussi d'autres conditions de détention pour ces trafiquants qui ne doivent pas être mélangés au reste de la population carcérale, avec des moyens de surveillance plus importants qui les empêcheraient de continuer leur business depuis la prison, de commanditer des meurtres depuis la prison. Donc des moyens très importants.
Merci à Jean-Michel Descugis et Vincent Gautrono. Jean-Michel Descugis, je signale que vous êtes co-auteur d'un complément d'enquête sur ce sujet sur France 2, diffusion le 21 mars. Marseille, encore mineur et déjà tueur, documentaire réalisé par Julie Pichot, produit par Studio Fact en partenariat avec Le Parisien. Code Source, c'est un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas nos autres podcasts, Le Sacre, parole de médaillé d'or olympique au micro d'Anne-Laure Bonnet jusqu'à Paris 2024, c'est chaque mercredi. Et Crime Story, tous les samedis, une nouvelle grande affaire criminelle. Si vous aimez nos podcasts, pensez à mettre une note ou un commentaire sur votre application audio pour nous faire remonter dans les algorithmes. Vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.